rencontre avec l'évêché de Toulouse, avec Mgr Battu, évêque auxiliaire de Toulouse.
Bonjour Mgr Jean-Pierre Battu et bienvenue sur Radio Présence.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Avec joie. Dimanche, à la cathédrale de Toulouse, vous avez été installé comme évêque auxiliaire de Toulouse. Comment avez-vous vécu cette célébration ?
Avec beaucoup d'émotion, une certaine crainte aussi, parce que j'ai pensé à ce que dit saint Paul, je suis arrivé chez vous craintif et tout tremblant. Voilà. Et en même temps, le sentiment d'être vraiment accueilli très fraternellement, très chaleureusement par les fidèles, par les prêtres, par les diacres, par les religieux et religieuses. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées avant et après cette célébration m'ont vraiment accueilli à bras ouverts en me disant « Bienvenue à Toulouse ». Et ça, ça fait chaud au cœur.
C'est la chaleur du sud-ouest
exactement.
qui a pénétré votre cœur. Lors de cette célébration, la bulle pontificale a été solennellement lue par le chancelier diocésain. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette bulle ?
Alors dans cette bulle, le Saint-Père s'adresse personnellement à celui qu'il nomme en lui disant « Cher frère, j'estime que tu as les qualités requises pour telle mission que je te confie ». Et à partir de ce moment-là, lorsque la bulle a été lue solennellement, eh bien, c'est une sorte d'officialisation de cette mission, même si elle débute à partir du moment où la nomination est connue par l'intéressé.
Oui, vous n'avez pas commencé à travailler dimanche, ouais. En fait.
Mais c'est une relation, c'est pas une relation administrative, c'est une relation vraiment personnelle entre l'évêque de Rome et tous ses frères évêques dans le monde. Et c'est ça qui est très, très impressionnant, très touchant dans ce texte. C'est un texte personnel adressé par quelqu'un à quelqu'un d'autre.
Et une marque de confiance.
Et une marque de confiance aussi, bien sûr.
Vous étiez jusqu'à présent, Monseigneur, évêque de Blois, une charge pastorale à laquelle vous avez renoncé pour raison de santé. Vous arrivez maintenant à Toulouse, vous allez seconder Monseigneur Guy de Kerimel dans l'administration du diocèse. Quelles vont être précisément vos missions ?
Alors mes missions, il y en a qui sont déjà définies et d'autres qui sont en voie de définition au fur et à mesure que les choses vont se passer. Par exemple, comme mission déjà définie, je vais m'occuper du diaconat, donc la formation des futurs diacres, l'appel, le discernement.
Diacre permanent ou les diacres en vue du
sacerdoce ? Diacre permanent, une expression que j'aime pas beaucoup, mais on pourra y revenir. Et puis le suivi des diacres déjà ordonnés, qui sont nombreux dans le diocèse de Toulouse, et les relations avec la province, c'est-à-dire les autres diocèses, où nous travaillons ensemble, en particulier pour la formation des futurs diacres. Donc ça, c'est déjà défini. Et puis, il y a toute une série de responsabilités qui tournent autour de la formation. C'est un petit peu dans mon patrimoine génétique, dans mon pédigré, dans mon parcours. J'ai beaucoup fait de formation dans ma vie. Et Mgr de Kerimel l'a tout de suite discerné. Et donc, c'est les relations avec l'Institut catholique, le séminaire, les différentes formations diocésaines. Voilà. Mais tout ça reste à préciser parce qu'il faut d'abord que je connaisse ce qui se fait, que je connaisse les personnes et que je vois comment je peux me rendre utile.
Donc, vous allez faire un petit tour du diocèse ou en tout cas de certaines institutions pour faire connaissance et puis voir comment vous pouvez déployer
votre
ministère.
Et puis déjà connaître le diocèse parce que quand on arrive, on ne connaît pas ou très peu. Et en l'occurrence, je ne connais pas la Haute-Garonne. Donc, il faut vraiment que je connaisse les lieux, les personnes, les paroisses, les communautés. Voilà, et tout ça, ça prend du temps et je veux prendre le temps de le faire.
Ah oui, bien sûr. Rencontrer les personnes et puis aussi visiter cette belle région, c'est les journées du patrimoine ce week-end. Ce sera peut-être l'occasion aussi de...
Oui, puis j'ai eu la joie de commencer le premier dimanche par une messe à Saint-Bertrand de Comminges. Et c'était vraiment tout à fait extraordinaire de se retrouver dans cet endroit fabuleux.
Oui, vous avez bien commencé. On va faire un petit peu connaissance avec vous, Mgr Jean-Pierre Battu, ce matin. Après des études d'allemand, vous vous êtes tourné vers la philosophie, puis la théologie. Vous avez particulièrement travaillé sur la toute-puissance de Dieu le Père. Qu'est-ce que ce qualificatif vient nous dire ?
En fait, j'ai travaillé sur un mot du credo, donc le mot tout-puissant, et comme très souvent, mon désir de travailler là-dessus est parti d'un étonnement. L'étonnement, c'est que le mot père et le mot tout-puissant soient accolés l'un à l'autre, parce qu'on n'a vraiment pas l'impression que ces deux mots soient faits spécialement pour être ensemble. Et je me suis dit, c'est très intéressant d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et j'ai travaillé sur des auteurs qui vont de Saint-Irénée à Origène, donc du 2e et du 3e siècle, parce que on est à l'origine de la théologie, on est à l'origine de la formation du credo aussi. Et donc, il m'a semblé tout à fait intéressant de faire cette recherche. Et puis aussi, très concrètement, la question de la toute-puissance de Dieu pose problème à beaucoup de gens, croyants ou incroyants. Si Dieu est tout-puissant, comment se fait-il que tant de malheurs nous arrivent ?
Eh oui, c'est toujours la question.
Voilà, exactement. Et donc, c'est vraiment une question très existentielle aussi. C'est pas simplement une question spéculative.
Mmh. Donc, pour cette recherche, vous avez fait énormément, vous avez beaucoup travaillé et vous êtes parvenu à un livre, en fait, un ouvrage.
J'ai travaillé pendant des années. Ensuite, j'ai fait ma soutenance. Et puis, quelques années plus tard, pratiquement une dizaine d'années après, j'ai publié un livre qui est un petit peu différent de la thèse parce qu'entre-temps, un certain nombre de sujets avaient mûri. Voilà. Mais ce qui est très intéressant dans un travail universitaire, c'est qu'il implique beaucoup la personne. Ce n'est pas simplement un exercice. C'est vraiment quelque chose qui accompagne la vie et ça a accompagné ma vie et aussi mon enseignement puisque j'ai été enseignant en théologie à Paris comme prêtre. Et c'est vraiment... cette lumière de la foi que j'ai essayé de creuser et de transmettre.
Un travail de recherche qui vous a nourri, non seulement intellectuellement, mais aussi pour votre propre foi et puis pour transmettre.
Oui, et puis encore une fois, dans des contacts très, très concrets, de catéchèses, des rencontres avec des personnes, des conversations que j'ai pu avoir avec des croyants ou des incroyants. La question de Dieu me paraît être une question souvent occultée, mais très présente et présente au cœur de tout être humain, parce que tout être humain se définit par cette recherche de Dieu.
Mmh, bien sûr. Génial, votre ouvrage, il s'appelle « À partir du credo », il a été publié en 2013.
Alors là, c'est juste une catéchèse, mais l'ouvrage de fond a été publié avant, mais peu importe.
Alors, vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse de Paris, vous avez été vicaire puis curé de différentes paroisses de la capitale, et dans une vidéo réalisée par le diocèse de Toulouse, vous conseillez de ne pas considérer la paroisse comme un territoire, mais comme une réalité eucharistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, alors j'aurais dû ajouter, elle n'est pas d'abord un territoire, parce qu'elle est aussi un territoire pour des raisons pratiques, je dirais. Il y a un découpage qui correspond à des besoins très concrets. Il faut savoir où se marier, où on a été baptisé, etc. Mais le mot paroisse vient d'un mot de l'Épître aux Hébreux, qui signifie résider quelque part comme des étrangers domiciliés. Et c'est un mot qui n'évoque pas la stabilité, mais qui évoque plutôt l'itinérance. Nous sommes de passage, nous sommes dans ce monde des pèlerins, exactement, comme Abraham, comme tous les grands personnages de l'histoire biblique que le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux évoque. Et sur cet itinéraire qui va de Dieu à Dieu, puisque c'est Dieu qui nous a voulu et c'est Dieu qui nous attend, eh bien, nous sommes accompagnés, nous sommes nourris. Alors, on peut penser à l'épisode des disciples d'Emmaüs. Le Christ chemine avec nous, le Christ qui est la parole de Dieu, et cette parole qui s'est faite chair, se fait pain aussi pour nous nourrir et pour non seulement nous soutenir individuellement, mais faire de nous un seul corps. Et c'est tout le mystère de l'Église. Et finalement, une paroisse qui serait dissociable, ce qui est absolument impossible à penser, dissociable de l'écoute de la parole de Dieu et de la célébration eucharistique, n'en serait plus une. Et donc, au cœur du mystère, au cœur de la réalité de la paroisse, il y a ce mystère du Christ qui chemine avec nous, lui qui est la parole en personne et lui qui se fait pain pour notre vie.
Mmh. Et est-ce que vous pourriez revenir sur vos différentes... à travers vos différentes expériences de vicaire et de curé en paroisse, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué et qu'est-ce qui pourrait servir d'exemple à ceux qui nous écoutent ?
Alors, ce qui m'a marqué, ce sont les rencontres avec les gens de toute génération, de toute condition. La grâce de la paroisse, c'est que c'est un lieu où se retrouvent des gens extrêmement divers. Ils ne se sont pas choisis. Et là aussi, c'est une belle facette du mystère de l'Église. Nous ne nous sommes pas choisis, nous avons été choisis. J'aime beaucoup dire, ça a choqué parfois certaines personnes, qu'on n'est pas chrétien d'abord parce qu'on a choisi de l'être, on est chrétien d'abord parce qu'on a été choisi pour l'être. C'est un mystère d'élection que nos frères juifs nous rappellent toujours, puisqu'ils en sont extrêmement conscients, et que parfois nous oublions, nous avons l'impression que être chrétien, c'est une option. Et en fait, c'est d'abord une mission que Dieu nous confie. Et je pense que dans la réalité paroissiale, on s'en rend compte très concrètement parce que, puisqu'on ne s'est pas choisi, eh bien, le Seigneur nous dit, est-ce que tu vas aller vers les autres ou pas? Et est-ce qu'avec les autres, tu vas aller vers ceux qui ne sont pas là et qui devraient y être si tu étais plus missionnaire, plus rayonnant, etc.
Vous avez été, Monseigneur Jean-Pierre Batty, de 2008 à 2014 évêque auxiliaire du diocèse de Lyon. Voilà, on termine votre parcours. Qu'est-ce que cette mission à Toulouse aura de différent par rapport à celle de Lyon?
Comme je ne suis pas prophète ni devin, je ne peux pas vous dire.
Dommage.
Ce que je perçois d'abord, ce sont un certain nombre de points communs. Déjà, un évêque auxiliaire, ce n'est pas l'évêque principal du diocèse. Il est là juste pour... aider, il est là comme évêque, comme successeur des apôtres, mais il est là pour aider l'évêque en charge directement du diocèse. Et donc, beaucoup de choses dépendent de la personnalité de l'évêque qui accueille, de ses souhaits, des besoins du diocèse. Et j'en suis encore au début de ma découverte. Je pense qu'il y a des analogies avec ce que j'ai fait à Lyon qui tiennent à mon parcours et ma personnalité. J'ai parlé tout à l'heure de la formation. Comme pendant toute une partie de ma vie, j'ai été formateur et enseignant, il est clair que j'apporte ça avec moi dans mes bagages. Et donc, ça va servir, si Dieu veut, le diocèse de Toulouse. Mais après, il y aura des différences que je ne peux pas encore prévoir.
Voilà, à la grâce de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est votre devise épiscopale, celle que vous avez choisie. Que signifie-t-elle pour vous?
C'est une parole de Saint Paul qui m'a beaucoup marqué. Saint Paul est quelqu'un qui fait des exposés théologiques très, très, très serrés. C'est un rabbin, il ne faut pas oublier. Donc, il a un argumentaire très précis, très serré. Et puis, à certains moments, on voit en quelque sorte le cœur de Saint Paul qui explose parce que ce n'est pas simplement avec sa tête et avec ses connaissances extrêmement approfondies qu'il parle, mais c'est aussi avec son cœur. Le Christ l'a saisi. Et cette parole, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, arrive au terme d'un raisonnement théologique très rigoureux, très serré. Et puis, Saint Paul explose à ce moment-là de gratitude, d'émerveillement. Et donc, j'ai dit un petit peu, en faisant un petit peu d'humour, que ça ne voulait pas dire Gott mit uns, vous savez, Dieu avec nous, que les soldats allemands de la Première Guerre mondiale avaient gravé sur leur ceinturon, une parole guerrière, mais ça veut dire un émerveillement devant ce fait que Dieu, de façon tout à fait gratuite, en raison simplement de son amour, s'est prononcé contre nous et ne se dédiera jamais dans ce qu'il a dit et dans ce qu'il a fait pour nous.
C'est la fidélité de Dieu.
La fidélité de Dieu, exactement.
Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Pierre Batty, évêque auxiliaire de Toulouse.